savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Savoir Plus. Cette semaine dans votre magazine d'information, on va s'intéresser tout d'abord au TER, le train express régional, qui connaît ces derniers temps un certain nombre de changements d'envergure. Des changements importants qui sont intervenus depuis le 1er avril en termes de tarification, et d'autres modifications interviendront dès le 15 décembre prochain, concernant cette fois les horaires des trains ainsi que leur cadencement. L'objectif pour la région comme pour la SNCF, c'est de rendre le train beaucoup plus attractif que le mode de déplacement ultra majoritaire aujourd'hui qu'est la voiture. Les engorgements de l'autoroute A1 et de la Nationale 41, pour ne citer que ces deux voies d'accès vers la métropole lilloise, sans parler de l'échec du fret en matière de transport de marchandises face aux camions, ont sans doute incité la région et la SNCF à revoir l'ensemble de l'offre, avec en filigrane une volonté affichée de la région de penser également au pouvoir d'achat de ses habitants. Mais la région met également la pression sur la SNCF pour qu'elle réponde à son exigence du triple A, assis à l'heure et avisé, une exigence qui n'empêchera toutefois pas la région d'ouvrir certaines lignes TER à la concurrence dès l'an prochain, soit 3 ans avant l'obligation imposée par la Commission européenne de Bruxelles. Une réunion du comité de ligne TER à destination des usagers et de la presse s'est déroulée le 23 mai dernier dans la salle polyvalente du lycée Condorcet de Lens. À l'issue de cette réunion, j'ai interrogé Luc Foutry, le vice-président du Conseil régional Hauts-de-France, en charge des transports.
Alors, la région a mis en place avec SNCF Mobilité de nouveaux abonnements. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, les nouveaux abonnements sont plus lisibles. C'est-à-dire qu'il y a une carte pour les usagers non réguliers, on va dire, ou occasionnels. Une carte à 30 euros qui donne droit à 50% de réduction sur tous les voyages pour la personne qui a cette carte. Et jusqu'à 3 personnes qui accompagnent cette personne, justement, sur les voyages TER, sur tout le réseau TER Hauts-de-France.
Voilà, donc c'est une évolution, justement, pour inciter beaucoup plus de voyageurs potentiels à prendre le train.
Exactement, pour les usagers occasionnels. Donc si on veut aller à Arras, si on veut aller à Lens, si on veut aller à Lille, si on veut aller à Dunkerque, parce qu'il va faire beau ce week-end, mais c'est une possibilité, parce que ça sera plus avantageux financièrement de le faire en famille. Sinon, il faut aller en bagnole et c'est moins cher d'aller en voiture qu'en train habituellement. Bah là, ce sera probablement le contraire. Et il y a une autre offre pour les usagers réguliers, donc pour les abonnements au travail, où on a 75% de réduction pour les usagers réguliers du train.
Et là, pas besoin d'avoir d'attestation d'un employeur ?
Non, mais il faut être sur une ligne et l'utiliser régulièrement. Mais il y a une origine et une destination obligatoire, tandis que sur l'autre carte, c'est 50% pour tous les trajets.
Alors justement, un usager posait la question tout à l'heure de la possibilité de se déplacer sur toute la région des Hauts-de-France de manière illimitée. Pourquoi à l'heure actuelle, ce n'est pas possible ?
Mais c'est possible avec la carte, elle est valable sur tout le réseau. Bon. Après, par ligne, il y a des tarifs. Ça, effectivement, il faut. Nous ne sommes pas encore à des zones. Effectivement, on pourrait arriver à une tarification par zone, peu importe l'origine et la destination, au nombre de kilomètres parcourus sur toute la région. Peut-être que c'est l'avenir sur lequel il faudra qu'on se penche pour que ce soit encore plus lisible. Voilà.
Alors, votre exigence au niveau de SNCF Mobilité, c'est le triple A. Est-ce que actuellement le triple A, il est respecté ?
Si je vous réponds en petit politicien, je vous dirais oui, alors que c'est non. Donc non, ça n'est pas respecté. Et on le voit, la réunion comme ce soir, on a l'honnêteté de donner les chiffres. De toute façon, les chiffres, comme on dit, ne mentent pas. Donc on a encore trop de trains en retard. On a des trains qui sont jusqu'à 70% seulement de taux de ponctualité. Ça veut dire qu'il y a 3 fois sur 10, ils sont en retard. Donc ça n'est pas acceptable pour les gens qui vont travailler. Donc c'est pour ça que cette nouvelle offre a été pensée, réfléchie et qui va se mettre en place à partir de décembre. C'est pour corriger tous ces dysfonctionnements, puisque ces dysfonctionnements ont quand même évidemment une raison, et toutes ces raisons ont été analysées par la SNCF à la demande de la région pour proposer un nouveau service plus fiable où les gens seront mieux accueillis dans le train, donc être assis, parce qu'aujourd'hui quand le train est à l'heure, il est souvent bondé, et quand il est à l'heure, et parfois il n'est même pas à l'heure, donc il faut qu'il soit les gens assis à l'heure, et puis que les trains soient à l'heure et qu'on puisse être averti en cas de problème.
Et justement, sur le manque d'informations qui peut survenir parfois entre la région et la SNCF, un usager posait la question tout à l'heure du fait qu'on ne lui avait pas informé au niveau de la SNCF des nouveaux systèmes d'abonnement. Quelle est votre réaction là-dessus ?
Ah, moi, je l'ai fait savoir à Monsieur Martel de la SNCF. Je trouve ça dommage. Alors, c'était peut-être la mise en place qui a fait que le message n'est pas bien passé. Mais c'est dommageable. Quand on dit qu'une offre est disponible à partir du 1er avril, il faut être prêt dès le 1er avril, comprenez ? Donc, ça veut dire que peut-être les formations n'ont pas été assez, ou l'information n'avait pas encore été assez diffusée par la SNCF à ses agents. En l'occurrence, pour la personne concernée, on a pris ses coordonnées pour régler le problème le plus rapidement possible.
Alors parfois, le public a du mal à comprendre un peu comment se décident les ouvertures, les fermetures de lignes au niveau du TER. Qui a la main ?
Les lignes en tant que telles, l'entretien des lignes, c'est SNCF Réseau. Donc quand il y a des fermetures actuellement, c'est parce que le réseau n'est plus sécurisé. Ça veut dire qu'il n'a pas été suffisamment entretenu pour pouvoir supporter des trafics de train. Donc c'est à ce moment-là qu'on dit on supprime une ligne, en fait on le suspend. Voilà. Et normalement, c'est Réseau, donc on va dire l'État pour simplifier vraiment, mais qui doit faire cet entretien-là. Et on voit bien que Réseau n'a plus d'argent. Il y a une dette extraordinaire qui est reprise par l'État, mais enfin, ça reste une dette. Et donc, c'est pour ça que nous avons, face à cette situation, soit on disait, ah bah là là, Réseau ne fait pas son travail, mais en tout cas, on ne faisait pas avancer le chemin public pour ces lignes. Soit on disait, mais après tout, c'est aussi le quotidien de nos habitants qu'on veut aider. Et à ce moment-là, on est prêt à investir de l'argent dessus. Et c'est pour ça qu'avec Xavier Bertrand, on est en région mobilisé pour mettre jusqu'à 50% de la rénovation des lignes qui ont été fermées et qu'on dit, on ne veut pas de fermeture de lignes.
Dernière question, quid de la privatisation de certaines lignes TER ?
Alors, je vais vous corriger, c'est la mise en concurrence. C'est pas la privatisation, c'est important parce qu'en fait le service va être peut-être confié à d'autres opérateurs que la SNCF. Donc aujourd'hui, on a ouvert le réseau en une information comme la loi nous demande de le faire, on doit ouvrir une information et tous les opérateurs qui seraient intéressés sont invités à regarder le réseau et nous faire des propositions sur quelles lignes ils seraient intéressés de travailler. Mais dans un an, une fois qu'on a fait cette information, on va lancer le cahier des charges. Donc rendez-vous en avril 2020, si je ne dis pas de bêtises. Et là, nous verrons, à l'issue de la période de consultation, si nous avons des nouveaux opérateurs et si ces opérateurs proposent un nouveau service ou un service meilleur que celui que nous avons de la part de la SNCF Mobilité. Ce que je veux souligner ici, c'est que nous avons on agit dans le cadre de la loi. La loi, de toute manière, nous oblige à le faire à partir de 2023 pour toutes les lignes. Pourquoi on le fait avant ? Dans la limite de 20% du réseau, c'est pour deux raisons très simples. Un, pour dire à SNCF, demain vous ne serez plus seul. Donc nous on croit en vous aussi, mais faites attention, on n'est pas des. Notre objectif, c'est d'avoir un meilleur service pour les habitants. C'est ça notre obsession. Deux, pour avoir nous en 2023 un début d'expérience pour voir comment ça fonctionne avant de généraliser l'ensemble à l'ensemble du réseau. Et j'insiste sur une dernière chose. SNCF Mobilité est présent dans notre pays à l'ouverture de la concurrence. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne sachent pas améliorer le service, on l'a vu encore ce soir. Donc voilà, on est sur quelque chose de très serein, mais avec une obsession, je le redis, améliorer la qualité de service rendu aux habitants.
Merci beaucoup Luc Foutry d'avoir répondu à vos questions.
Merci.
Fabien Martel, directeur de production de SNCF Mobilité dans les Hauts-de-France, revient également pour nous sur la nouvelle offre TER proposée par la SNCF dans la région.
Alors, Monsieur Martel, vous proposez aujourd'hui une nouvelle offre TER pour 2020 pour le Nord des Hauts-de-France. Pour quelle raison ?
Alors on le fait pour la raison principale que notre offre actuelle est usée, elle est ancienne, elle date de 2012. Beaucoup de choses ont changé, les habitudes et les attentes des clients ont changé, il y en a plus aussi. Et donc on a des problèmes de surfréquentation de nos trains sur les pointes, des problèmes de régularité qui sont liés en fait à la complexité de notre offre qui s'est déformée avec le temps. Et donc il était temps de faire un rebasage complet, repartir de zéro pour remettre nos trains à l'heure, offrir plus de capacité pour mettre davantage de monde. Donc on a une vraie ambition pour, à partir de 2020, mettre 15 000 clients en plus dans nos TER tout en les faisant rouler à l'heure et en leur garantissant une place assise.
avec donc des offres différentes, hein, TER City, TER Proxy, TER Chrono. Quelles sont les différences?
L'idée, c'était de dire que sur un aussi grand territoire qu'est l'Hauts-de-France, il y avait différents types de clients TER, parce qu'il y a différentes zones d'habitation, il y a des besoins qui sont différents aussi, hein, entre les gens qui sont des clients occasionnels, qui ont besoin de se déplacer entre grandes villes, et des gens qui font tous les jours le travail pour aller au boulot. Les trois familles du TER, aujourd'hui, vous avez le TER City, qui est vraiment à l'intérieur de la métropole lilloise. C'est un peu notre RER Hauts-de-France à nous. Donc l'idée, c'est d'avoir beaucoup de fréquences, de quasiment plus regarder l'horaire du train, mais savoir qu'en arrivant dans la gare, un quart d'heure après, il y a automatiquement un train qui vous amène, par exemple, vers Lille. On n'oublie évidemment pas les territoires moins densément peuplés, les zones rurales. Il y a une vraie vocation de la SNCF d'être présente sur les dessertes fines du territoire. On a un historique d'aménagement et donc on est présent. Donc on a créé le TER Proxy pour la desserte des zones peu denses, avec une offre en augmentation. Et puis enfin, vous avez les clients plus classiques, le TER Chrono. L'idée, c'est d'aller le plus vite d'une ville A à une ville B. Donc on a quadrillé avec toutes les grandes villes le territoire Hauts-de-France en mesurant les temps de trajet, en essayant de proposer des offres plus performantes. Alors j'ai quelques-unes en tête. Cambrai-Lille en moins d'une heure, on est à 59 minutes aujourd'hui. Il y a un nouveau TERGV Amiens-Lille, là aussi en moins d'une heure. Bon, il n'y en a qu'un parce qu'on n'avait pas la place, mais il existe. Vous avez une nouvelle offre TERGV qui augmente de façon très sensible, hein. Aujourd'hui, vous passez de 3 allers-retours à 9 allers-retours entre Arras et Lille. Donc ça met Arras à 20 minutes de Lille en train, c'est extraordinaire. Enfin voilà, donc ces trois grandes familles de clients TER. L'idée, c'est d'aller chercher les clients dans leurs besoins, également dans leurs habitudes de mobilité, hein. On avait auparavant une offre très concentrée sur les pointes. L'idée, c'est d'offrir une offre plus étagée tout au long de la journée, parce que les usagers ont besoin de ça aujourd'hui. Donc vous voyez, on a diversifié notre offre, identifié différents marchés, et on l'a densifié tout au long de la journée, tout en la rendant plus robuste pour remettre les trains à l'heure.
Vous souhaitez également répartir différemment, hein, les trains disponibles aux heures de pointe, hein. Pour quelle raison ?
En fait, on s'est rendu compte que nos trains les plus chargés sur les hyperpointes, alors typiquement l'hyperpointe du matin c'est 7h15 et l'hyperpointe du soir c'est 16h30, en fait c'était souvent les trains qui avaient le plus de difficultés, à la fois en régularité mais aussi en fréquentation. L'idée en fait que l'on a, c'est de, en offrant une offre plus régulière toute la journée, déjà je pense qu'il y aura une meilleure répartition des clients, un meilleur lissage tout au long de la journée. Pour lutter contre les phénomènes de surfréquentation, c'est en fait pour nos rames qui sont les plus capacitaires, les réengager plus vite à l'intérieur des zones où il y a un besoin, pour remettre à disposition plus rapidement les sièges offerts. Et enfin, diminuer très légèrement la fréquentation en pointe pour éviter ces phénomènes de saturation ferroviaire qui en fait mettent les trains en retard par cascade et retrouver un meilleur niveau de régularité.
Alors, autre nouveauté, il n'y aura plus que deux types de trajets, hein, de type de mission, hein, comme vous les appeliez tout à l'heure, au lieu de 8 actuellement.
Ah oui, alors ça dépend des axes. L'exemple que je donnais tout à l'heure concerne la desserte entre Béthune et Lille. Par exemple, entre Lille et Valenciennes, il y avait 6 missions différentes, demain il n'y en aura plus que 2. Entre Lille et Douai, il y en avait 6 aussi, demain il n'y en aura plus que 2. En fait, pour résumer, le train, plus c'est simple et plus c'est robuste. Donc dès qu'on met de la complexité dans les missions, des politiques d'arrêt différentes d'un train à l'autre, dès que vous mettez un grain de sable dans cette mécanique, la machine se grippe et vous avez des effets domino, boule de neige sur les régularités. On pense qu'en simplifiant cette desserte, on va simplifier les décisions opérationnelles quand il y a des incidents, et il y en a fréquemment, hein, sur nos voies, et bien on remettra les trains à l'heure beaucoup plus rapidement.
Alors également, vous allez veiller à l'augmentation par ce biais-là, hein, des places assises.
Ah oui, on a notre nouvelle offre TER, ça représentera une augmentation en places assises de 11% sur le TER. Donc il y aura largement de quoi asseoir, on l'espère, nos 15 000 clients supplémentaires. Alors peut-être pas tout de suite au 15 décembre 2019, mais on l'espère rapidement.
Autre fait que j'ai relevé, l'augmentation de 50% de l'offre sur Don Saint-Gain-Lens. Il y avait une raison particulière à cela ?
Oui, parce qu'on a fait une analyse par territoire et on a une analyse par potentiel captable. Vous voyez, donc on est allé interroger les besoins de mobilité sur les différents territoires, vers quelle destination. Et on a senti que sur cette zone-là, entre Lens et Don Saint-Gain, il y avait un potentiel intéressant à développer. Donc en effet, on passe de 15 à 24 allers-retours. Donc vous voyez, une augmentation de presque 50% de l'offre sur cet axe. C'est considérable et on est certain qu'on va avoir du succès sur cette offre.
Comment décririez-vous vos relations avec la région et le triple A, la contrainte du triple A ?
L'avantage de ce slogan, c'est que finalement, il est extrêmement simple. Assis à l'heure avisée, vous résumez en un slogan les besoins. Il est très exigeant aussi. Aujourd'hui, hier, on n'était clairement pas au rendez-vous sur l'information voyageur. Depuis plusieurs mois, il y a une véritable révolution dans l'entreprise. Et je peux vous dire, moi, en tant que directeur de la production, l'information voyageur, je le mets au même titre que la régularité. C'est vraiment aujourd'hui devenu un de nos piliers de fonctionnement. Donc voilà, on a un conseil régional qui est extrêmement exigeant sur la qualité. Et d'ailleurs, il nous le dit, si on n'est pas au rendez-vous sur la qualité, eh bien, il y aura des concurrents qui viendront prendre notre place. Donc évidemment, là-dessus, notre ambition, c'est de rester les leaders incontestés du TER en Hauts-de-France et de prouver par... Les gains en qualité que c'est nous qui méritons de garder l'ensemble du TER Hauts-de-France en production.
Néanmoins, est-ce que vous vous y préparez à cette concurrence ?
Oui, bien entendu. Par cette nouvelle offre, l'idée c'est que en remettant les trains à l'heure, on diminue cette impatience à avoir de nouveaux opérateurs sur notre territoire. Et puis parce qu'il y a aussi une exigence sur les trajectoires économiques, on essaye de rationaliser nos modes de fonctionnement pour être plus efficaces, de faire mieux du train en coûtant un peu moins cher si possible.
Alors on l'a encore vu ce soir, pour terminer, dans les réunions de comité de ligne, pas facile de satisfaire tout le monde.
Ah oui, c'est sûr que c'est un peu comme l'équipe de France de football. Si vous demandiez aux 60 millions de Français quelle était leur équipe type, vous auriez énormément de compositions. Donc on a un rôle difficile qui est d'essayer de trouver le bon équilibre entre les demandes très individuelles. Vous voyez, les gens qui voudraient avoir des trains tard le soir parce qu'ils veulent sortir, ou alors, à contrario, ceux qui veulent des trains très tôt le matin parce qu'ils travaillent en 2-8. Puis après, des gens qui ont besoin des trains tout au long de la journée pour se déplacer, des gens qui ont besoin des trains qui aillent vite, alors même qu'il n'y a pas beaucoup de fréquentation sur la ligne. Enfin, vous avez de tout. Donc, on a eu une démarche rationnelle qu'on sait expliquer aux gens. Franchement, l'attrait de l'offre, elle est profitable à l'immense majorité. Il y aura peut-être quelques déçus dedans, mais sincèrement, par rapport à l'apport collectif, on pense que vraiment le jeu en vaut la chandelle.
Florent Martel, et non Fabien Martel, comme je l'ai dit auparavant, directeur de la production de SNCF Mobilité dans les Hauts-de-France. Durant cette réunion du comité de ligne TER au lycée Condorcet à Lens le 23 mai dernier, il était impossible d'échapper à la polémique actuelle concernant la baisse du nombre de TGV entre Lens et Paris. Jean-Paul de Courcelles, adjoint au maire de Lens, était présent à la réunion du comité de ligne TER et en a profité pour interpeller la région et la SNCF.
Vu du territoire, on va perdre une nouvelle fois, en fait, compte, c'est la double peine. On va perdre en attractivité vis-à-vis de Paris, alors qu'on a le Louvre, alors qu'on va voir les desserts, alors qu'on a 1 million de personnes qui viennent sur les chemins de mémoire, etc., etc. Je ne veux pas faire l'article ici, mais on baisse l'offre TGV et là, on va réduire ces trains, enfin nous supprimer ces trains qui étaient rapides et qui pouvaient donner une certaine pertinence. D'autant plus que par ailleurs, quand on discute TGV, on nous propose des correspondances via à Lille de certains TGV pour venir à Lens, notamment en milieu de journée pour les visiteurs du Louvre ou d'autres personnes qui viennent en cours de journée. Alors si en plus ils doivent mettre 3 quarts d'heure, c'est-à-dire quasiment le même temps entre Lille et Lens et Paris et Lille, on n'est vraiment pas dans quelque chose qui va être pertinent. Je tenais à dire que c'est une grande déception de la région et on a l'impression d'être un peu les enfants oubliés de cette région, et j'oserais pas aller jusqu'à penser puisque les orientations politiques du secteur géographique ne sont pas les mêmes que celles de la région. Mais pour autant, si vous êtes en place, c'est grâce aussi au report à l'occasion et au sacrifice des élus de gauche de vous faire élire à cette région.
Jean-Paul de Courcelles, adjoint au maire de Lens, qui protestait contre la politique de la région et de la SNCF concernant la baisse du nombre de dessertes TGV à Lens. La réponse de Luc Foutry, vice-président du Conseil régional des Hauts-de-France.
Nous travaillons pour l'ensemble du territoire. Alors dire, j'espère que... Non, monsieur, n'espérez pas. Vous savez que ça n'est pas vrai. En tout cas, moi, je vous le dis. Quelle que soit la couleur politique... D'ailleurs, c'est quoi la couleur politique d'un territoire aujourd'hui ? Soyons clairs, c'est quoi ? C'est la municipalité ou ce sont les autres votes ? Est-ce que c'est la couleur politique de Lens ? Ça va être le résultat des européennes. J'ai suffisamment de respect pour le mandat local que vous avez, monsieur, puisque je l'ai aussi, et je sais que votre propos, moi je ne veux pas les résumer à cette dernière phrase, et franchement, je vous assure que notre réflexion n'est pas celle-là. Soyez-en convaincus. Par contre, sur l'attractivité, moi je partage tout à fait votre point de vue. Je dois dire ici que ce qui vous a été dit par la SNCF, et je le dis publiquement, c'est qu'il y a des gens qui vont noter, qui vont reproduire, et ils peuvent le faire sans aucun problème. Nous n'avons jamais sollicité de nouveau matériel auprès de la SNCF pour le TERGV. La desserte TGV, c'est une politique nationale au niveau de la SNCF-TGV, nous la contestons. Et je vous remercie d'avoir donné cette information parce qu'elle traînait depuis un bout de temps. Il y a des élus qui nous ont dit « Ah oui, mais c'est de la faute de la région s'il y a moins de TGV prévus ci et là, parce que la région a besoin des rails. » C'est faux. Nous n'avons pas demandé, je vous le dis ici. La deuxième chose avant de passer, parce que sur l'offre, il y a peut-être des réponses plus précises à apporter. Vous savez, l'attractivité de Lens... Elle se joue effectivement par l'offre TER et par l'offre TGV, je vous rejoins. Je prends un exemple tout simple. Vous disiez que les heures de pointe pour Lille, mais en dehors des heures de pointe, on est plus concurrentiel avec la voiture quand on prend le train. Il n'y a plus d'heure idéale pour accéder à la métropole lilloise. Ça devient de plus en plus compliqué à toutes les heures de la journée. J'en ai fait moi-même l'expérience, mais je vous passerai mon expérience. Mais il m'arrive à l'occasion, je ne pensais pas le dire, mais... L'offre TGV n'est pas aussi dense à Lens qu'à Lille, mais c'est plus pratique.
Luc Foutry, tout à l'heure, à propos de la polémique autour de la présence ou non du TGV à Lens, vous avez été formel. La région n'a pas demandé à avoir plus de rames TERGV.
C'est clair. On ne peut pas dire mieux. Nous, on n'a pas fait cette demande-là. Et il n'est pas normal que la SNCF évoque cette question de la desserte des TGV auprès des maires concernés ou des villes concernées en s'appuyant sur cet argument, parce qu'il est faux. D'ailleurs, ça a été confirmé par Monsieur Martel ce soir. Donc il faut tordre le cou à des mauvaises informations. S'il y a moins de desserte TGV demain sur certaines villes, c'est de la responsabilité de la SNCF et pas de celle de la région, et pour des raisons qui concernent la SNCF. Pour ce qui nous concerne, nos régions, je l'ai dit aussi tout à l'heure, nous soutenons les positions locales. C'est-à-dire que là où il y a une volonté de maintenir la desserte TGV avec Paris, eh bien nous serons avec les élus locaux. Là où l'offre correspond, même en réduction, correspond parce qu'elle s'harmonise bien avec soit des TERGV, soit des TER City, comme on les met en place, et si ça convient aux maires de ces villes-là, nous serons aussi à leur côté.
De son côté, Fabien Martel, directeur de production de SNCF Mobilité dans les Hauts-de-France, confirme que c'est bien la SNCF qui a proposé une augmentation de l'offre TERGV au détriment des dessertes TGV à Lens.
Sous l'angle production sur ce côté TGV, donc je confirme que l'augmentation du TERGV, c'est quelque chose que la SNCF a proposé, et ça n'a pas été fait sous l'impulsion du conseil régional, c'est bien l'entreprise SNCF qui a fait ce choix-là. Ce choix, il est en fait lié à une opportunité dans l'utilisation des rames. Je vous la fais très simplement. Aujourd'hui, l'offre TGV sur la partie nord va se construire sur deux axes. Un TGV direct Paris-Lille-Flandre. On va dire ça, c'est la navette premium typée homme d'affaires avec un tarif d'accès un peu plus élevé et qui tourne cadencé tout au long de la journée. Et une autre offre passant par Arras, puis l'île Europe à coût moindre, mais évidemment avec un temps de trajet un peu plus long. La problématique de remisage de rames à l'île Europe, spécifiquement avec le remisage qui est placé en dessous et qui en fait cisaille tous les flux d'entrée à l'île, en fait offre une opportunité d'aller garer les rames sur le littoral. Et en fait, quand vous allez garer les rames sur le littoral, bah, vous créez des TERGV. Donc l'augmentation de cette offre Paris, l'île Europe par Arras crée cette opportunité d'aller développer le TERGV au-delà. On ne consomme pas plus de rames, en fait on vient, vous voyez, brancher le remisage au-delà.
Néanmoins, selon Fabien Martel, les discussions se poursuivent entre la SNCF et les élus pour tenter de trouver des solutions autour des dessertes TGV à Lens.
Bon, je suis un peu mal placé pour en parler parce que moi je m'occupe du TER. Je crois que le dirigeant d'Axe TGV, notre directeur de région aussi, mouille la chemise pour essayer de trouver une solution avec les élus. Il y a déjà eu 4 réunions. Je pense qu'il y a déjà eu des bougies importantes dans les propositions. Moi, je suis certain qu'on va trouver un terrain d'entente pour pas que les territoires se sentent lésés, comme certains ont eu l'impression au début de cette affaire.
11h26 sur Radio Plus. Voilà, concernant ce sujet des trains express régionaux. À l'instant, vous avez entendu Florent Martel, qui est le directeur de production de SNCF Mobilité dans les Hauts-de-France. Restez avec nous dans quelques minutes. On va parler du nouvel appel à projet de la Louvre-Lens-Vallée en compagnie de Vincent Gariazzo, qui est chargé de développement de la Louvre-Lens-Vallée. Ce sera juste après Toto et Hold the Line.
Hold the Line, c'était Toto sur Radio Plus, 11h, passé de 31 minutes.
WR62, la radio des collégiens du Pas-de-Calais.
Laissez-nous vous emmener à la découverte de ce genre, à mi-chemin entre le théâtre et la musique.
Le 13 juin, les collégiens du département prennent le micro.
Arrivée en 1910 en France, la Fédération des patineurs compte trois spécialités.
Retrouvez en direct de l'hôtel du département WR62, l'émission des collégiens à partir de 14h. Découvrez les capsules réalisées par les collégiens du département autour de la culture, du patrimoine, de la citoyenneté ou encore du sport dans le territoire du Pas-de-Calais et retrouvez des échanges entre collégiens autour de ces productions.
Attention les enfants, j'arrive.
Une émission en partenariat avec Radio Plus, l'atelier Canopée, le département du Pas-de-Calais et le Clémy de l'Académie de Lille.
Voilà, donc émission à retrouver en direct le 13 juin prochain sur Radio Plus. À présent, autre sujet dans votre émission Savoir Plus, hein, il s'agit du nouvel appel à projet de la Louvre-Lens-Vallée, appel à projet à destination des entrepreneurs et entrepreneuses qui ont des idées innovantes et qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Vincent Gariazzo, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de développement de la Louvre-Lens-Vallée. Alors pouvez-vous rappeler à nos auditeurs et auditrices ce qu'est la Louvre-Lens-Vallée?
Alors la Louvre-Lens-Vallée, c'est un incubateur accélérateur d'entreprises innovantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire incubateur accélérateur? C'est tout simplement une structure où on accompagne de jeunes porteurs de projets qui ont une idée ou qui ont déjà créé leur entreprise et qui veulent accélérer leur développement. On est situé à deux pas du musée du Louvre-Lens et on a la chance donc d'avoir ce nom du Louvre-Lens.
Voilà, et puis on parle aussi parfois de cluster hein, pour désigner la Louvre-Lens-Vallée. Ça veut dire quoi ça?
Alors tout à fait. Alors cluster, ça signifie en fait grappe en français, et tout simplement c'est un écosystème innovant autour du monde culturel. Voilà, tout simplement.
Alors chaque année, il me semble, vous lancez un appel à projet à destination donc des entrepreneurs. À la base, vous cibliez surtout les entrepreneurs culturels. Aujourd'hui, vous ouvrez à tous les secteurs d'activité. Pour quelle raison?
Alors tout simplement parce qu'on nous l'a un peu demandé. C'est la première raison. On s'est aperçu qu'on avait des demandes d'entreprises qui n'étaient pas forcément dans le monde de la culture et qui souhaitaient être accompagnées par nos soins. Et on s'est dit, bah, finalement, on va essayer de décaler un peu les choses, c'est-à-dire d'accompagner toute thématique à partir du projet, à partir du moment où il y a un projet innovant, en fait, mais d'y apporter des apports du monde de l'art et de la culture dans l'accompagnement.
Alors, ce nouvel appel à projet, à qui s'adresse-t-il plus particulièrement?
Un porteur de projet qui a une idée, voilà, une idée innovante. Il l'a pas forcément structuré et il souhaite être accompagné pour le faire au mieux. Donc ça, c'est la première cible. La deuxième cible, c'est si vous avez créé votre entreprise, donc plutôt jeune entreprise, qu'elle est innovante également, et que vous souhaitez accélérer son développement, prendre des parts de marché international, ce genre de choses, vous pouvez venir nous voir. Et enfin, la dernière cible, on s'adresse, et ça c'est une nouveauté, également à des entreprises qui souhaitent développer l'intrapreneuriat. Donc c'est souvent des grands groupes qui ont voilà des salariés qui peuvent avoir une idée de projet innovant. Ils n'ont pas forcément la structure pour accompagner ce type de projet. Ils peuvent également postuler chez nous.
Alors, on va parler bien sûr dans quelques instants des programmes spécifiques d'accompagnement des bénéficiaires dans le détail, mais d'une manière plus globale, vous parlez donc de méthodologie culturelle concernant l'accompagnement de ces personnes, des bénéficiaires, des startups sélectionnées. Ça veut dire quoi, méthodologie culturelle?
Alors oui, effectivement, ça mérite un peu d'explication. Tout simplement, c'est de faire intervenir des personnes du monde de la culture qui ont quelque chose à dire et à apporter à un porteur de projet. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui vient du milieu du cinéma. Lorsqu'il monte un court-métrage, finalement, c'est un projet aussi. Il a des méthodes, il a des astuces et il peut le faire partager à nos porteurs de projet. Ça peut être également, et ça, on va le faire évidemment en tout début d'intégration de programme, puisqu'on accompagne aussi l'humain, hein, évidemment, vous avez un projet, mais le porteur de projet est très important. Pour identifier vos valeurs, on va vous emmener au musée du Louvre-Lens, on va vous permettre de voir différentes œuvres qu'on aura sélectionnées au départ, et avec un travail, un échange qu'on fera avec vous, ça permettra de voir quelles sont vos valeurs, quelles sont vos aspirations, votre vision.
Alors, les bénéficiaires, on l'a un peu évoqué, vont intégrer à l'issue de la sélection trois programmes différents. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Bien sûr. Alors, le premier programme qu'on appelle incubation, en fait, c'est vraiment quand vous avez l'idée, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que vous n'avez pas forcément structuré cette idée. Donc, à noter que c'est un accompagnement payant, hein, c'est 99 euros par mois sur une durée qui peut aller de 6 à 8 mois. Ce premier programme, en fait, va vous prendre par la main au long de ces 6 à 8 mois et par différentes briques d'accompagnement, faire en sorte que vous immatriculiez votre entreprise et qu'elle soit pérenne. C'est l'objectif. Le deuxième programme, c'est un programme qu'on appelle accélération. Là, la nécessité, c'est que votre entreprise soit déjà créée. Généralement, c'est plutôt des jeunes entreprises, entre 1 et 3 ans d'existence. Et là, le but du jeu, c'est de vous accompagner pour des levées de fonds, pour du développement à l'international, pour du recrutement, toujours avec ses apports de l'art et de la culture. On garde toujours ce fil rouge. Et enfin, le dernier programme qui s'appelle Accélération Internationale. Là, le but du jeu, c'est vraiment de faire ce focus développement international. Donc, on vous emmène à des salons à l'étranger. On va vous aider à faire du management interculturel. On va faire venir des coachs en langue, voilà, suivant les langues des pays que vous souhaitez identifier. Alors, l'accélération simple, c'est 250 euros TTC par mois. Et l'accélération internationale, c'est 499 euros TTC par mois. Pareil, sur une durée d'accompagnement de 6 à 8 mois.
Alors, donc, il y a une sélection et l'accompagnement donc est payant, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Alors, pourquoi payant ? Parce qu'avant, on ne le faisait pas payer.
Oui, c'est un changement aussi, ça.
Ça, c'est un sacré changement, effectivement. Donc, on est conscient que c'est une somme, hein, parce que quand vous, notamment en incubation, vous ne développez pas de chiffre d'affaires, vous avez juste votre idée. Maintenant, ça a deux bienfaits. Alors, le premier, c'est que ça vous oblige à vraiment vous impliquer à fond dans votre projet, parce que jusqu'à présent, notre accompagnement était gratuit, était offert. Et du coup, on s'était aperçu que les gens n'étaient pas forcément autant impliqués qu'ils devraient l'être. Et le deuxième bienfait, c'est tout simplement qu'on est une association loi 1901. Alors même si on est financé principalement par des fonds publics, on a nécessité d'être à l'équilibre en fin d'exercice et ça participe à ça. Voilà, donc le coût réel en fait de l'accompagnement est bien plus élevé. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, en incubation, ça représente un peu plus de 10 000 euros. En accélération, on est plutôt autour de 13-14 000 euros. Voilà.
Mais est-ce que vous ne craignez pas, en faisant payer justement cet accompagnement, de vous dispenser de projets, d'idées qui pourraient être extrêmement innovantes, du coup ?
Alors, on prend un peu ce risque parce qu'on estime, voilà, par exemple sur de l'incubation, finalement, ça va vous coûter entre 600 et 800 euros sur un accompagnement qui est quand même assez qualitatif. Donc, ça représente pas une somme énorme. On prend ce risque, hein, c'est clair. Mmh. On peut éventuellement passer à côté de projets, mais voilà, en toute logique, des personnes motivées qui veulent vraiment aboutir seront prêts à mettre ce financement.
Alors, justement, en termes de services, quels sont les bénéfices hein, pour les personnes accompagnées d'être au sein de la Louvre-Lens-Vallée ?
Alors, le premier bénéfice, c'est d'accéder à notre bâtiment, parce qu'on a un nouveau bâtiment qui est l'ancienne école Paul Bert, donc 86 rue Paul Bert à Lens. Donc, c'est vraiment un très beau bâtiment qui a été entièrement réhabilité et qui donne accès à un espace de coworking, où vous pourrez échanger avec d'autres entrepreneurs.
Alors le coworking, on va le préciser hein, pour oui. Celles et ceux qui ne sont pas familiers avec la langue de Shakespeare.
Tout à fait. Alors le coworking, en fait, c'est de grands espaces de travail où vous êtes mixé avec d'autres entrepreneurs. Voilà qui est, donc cet espace vous permet d'avoir accès à une connexion Wi-Fi, on a une connexion fibre. Vous avoir accès également à des salles de réunion lorsque vous avez besoin de travailler avec vos collaborateurs ou accueillir un client. Donc ça, c'est le premier bénéfice, c'est le bâtiment. Le deuxième bénéfice, c'est que vous accédez à tous nos événements. Donc on organise régulièrement des événements, on fait venir des intervenants un peu décalés, donc sous forme d'afterwork, alors je vais le définir aussi. voilà, c'est plutôt des interventions qui ont lieu plutôt en fin de journée, vers 18h, où on boit un verre, où on fait du réseau, et on a également la possibilité d'assister à une petite conférence. Donc ça, c'est le deuxième bénéfice. Et le troisième bénéfice, c'est également l'accompagnement dont je vous parlais tout à l'heure.
Alors, ce gros changement, l'arrivée du nouveau bâtiment de la Louvre-Lens-Vallée, qui était vraiment attendu, hein, ce sera le 28 août prochain, hein, il me semble, d'après ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce bâtiment, du coup, par rapport au bâtiment actuel ?
Tout à fait. Alors effectivement, Jean-Philippe, l'inauguration c'est le 28 août, mais on va l'intégrer avant.
Avant. En fait,
voilà, on a la commission de sécurité qui passe la semaine prochaine, donc en toute logique, ça devrait bien se passer. Donc on va l'intégrer dans les 15 prochains jours. Alors qu'est-ce qu'il apporte de différent ? Alors déjà, il est très grand. Il fait plus de 2500 mètres carrés. À noter qu'il y aura un Fab Lab, hein, donc en partenariat avec l'université d'Artois. Donc ça, c'est un gros plus pour les entrepreneurs puisqu'ils vont tout simplement pouvoir prototyper et maqueter leurs produits ou services à l'aide du FAM Manager.
Voilà, donc c'est un espace où on peut faire par exemple de l'impression 3D, de la découpe laser, de ce genre de choses.
Exactement, tout à fait. Il y aura deux espaces, un espace où, comme vous le mentionniez, on peut effectivement faire ce genre de choses, mais la spécificité, c'est aussi un autre espace plus dédié son, image, développement 3D, ce genre de choses. Donc on pourra voilà faire des vidéos avec un espace avec fond vert, on pourra faire des enregistrements avec table de mixage, etc.
Et puis d'autres locaux, donc du coup des salles de réunion plus grandes, j'imagine, et puis d'autres espaces sans doute.
Tout à fait. Vraiment, en espace de salle de réunion, on est plutôt bien doté. On a installé des tableaux de bord interactifs, donc ça c'est plutôt sympa pour travailler. À noter que ces salles sont aussi réservables si vous êtes une entreprise extérieure, vous avez besoin voilà pendant 3 heures d'accueillir vos équipes, de faire une réunion de travail. Donc ça c'est aussi un plus. Et enfin le dernier point, c'est que l'école Pop School Lens devrait s'installer aussi dans nos locaux. Donc ça crée aussi une mixité. Et c'est un plus pour les entrepreneurs puisqu'ils pourront peut-être avoir des jeunes de Pop School en stage chez eux directement.
Voilà, alors on va peut-être rappeler aux auditeurs ce qu'est la Pop School.
Tout à fait, alors c'est une école du numérique qui est destinée sous un format assez court à vous former à différents métiers du web.
Alors aujourd'hui, du coup, grâce à ce bâtiment, ce nouveau bâtiment, vous prenez une autre dimension avec la Louvre Lens Vallée. On va pouvoir, à présent, maintenant, vous comparer avec d'autres structures du même genre dans la région, hein, comme Plénimage, par exemple.
Tout à fait, on prend vraiment une autre dimension. Jusqu'à présent, on avait un bâtiment de 350 mètres carrés, alors on était déjà très contents. Mais là, effectivement, sans aller, parce qu'on va être modeste et humble, évidemment, Plénimage, Serre Numérique, qui sont vraiment de très gros incubateurs, on n'est pas tout à fait encore à cette échelle, mais en tout cas, on prend une dimension qui est assez proche.
Est-ce que, justement, ça va aussi permettre d'attirer plus de monde chez vous ? Est-ce que c'est ce que vous espérez, justement ?
C'est ce qu'on espère, effectivement. Alors, même si l'idée, comme on l'a souligné tout à l'heure, le fait que l'accompagnement soit payant, on va aussi être plus sélectif dans les projets qu'on retient. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier, notre promotion, c'était 26 porteurs de projets et entreprises dites accélérées. Hein, donc, il y avait 18 incubés et 8 accélérés. Cette année, on s'est mis pour objectif 15 incubés, 5 accélérés. Ce sera peut-être plus, mais on restera à peu près dans cet ordre d'idée.
Voilà. Alors actuellement, 44 entreprises sont accompagnées par la Louvre Lens Vallée. Que deviennent les entreprises qui ne sont plus accompagnées ? Est-ce que vous avez des exemples concrets d'entreprises qui ont pu continuer après votre accompagnement ?
Bien sûr. Alors c'est justement aussi un des intérêts du bâtiment, c'est qu'on a un espace pépinière pour justement des entreprises qui sont sorties de notre accompagnement et qui sont à la recherche de locaux sur Lens. Donc on a 5 bureaux en pépinière qui sont tous déjà préloués hein, par des entreprises qui sont passées par chez nous. La plus emblématique, c'est une entreprise qui s'appelle Redison, qui a eu pas mal de presse, donc peut-être ça parle à vos auditeurs. Donc eux, leur produit, c'est...
Une batterie connectée, je crois.
Exactement, Jean-Philippe, c'est parfait. Voilà, batterie connectée. Alors, effectivement, Redison est bien monté en puissance, puisqu'après une première levée de fonds sur une campagne Kickstarter... Et ils ont pu recruter des personnes. Donc aujourd'hui, ils sont 5 au niveau de l'équipe. Ils ont relancé une campagne Kickstarter pour des pads sans fil qui s'ajoutent aux accessoires qui étaient précédemment commercialisés. Et ils sont vraiment dans cette logique de développement international. Donc récemment, ils étaient aux États-Unis, dans un salon pour proposer leurs produits. Ils ont entamé un partenariat avec Cultura. Donc ça monte en puissance et on espère vraiment que voilà, ils vont pouvoir bien fonctionner. En tout cas, ça en prend la voie.
C'est un produit effectivement très innovant qu'on a d'ailleurs découvert par le biais de Cultura puisque nous étions il y a quelques jours, quelques semaines à Cultura et Nain Beaumont pour une émission spéciale justement. Et on nous a effectivement parlé de ce produit Redison, donc produit made in Lens et qui justement permet aux batteurs, aux gens qui jouent de la batterie, justement de pouvoir jouer de cet instrument n'importe où avec donc des capteurs au poignet et aux jambes. Voilà, donc ça c'est un produit très innovant effectivement. Qui a sans doute beaucoup d'avenir, même si ça peut donner, même si ça risque de donner lieu à des scènes un peu surréalistes dans le métro ou dans le train, par exemple. Allez, tout de suite, on va parler également de l'emploi au niveau de Louvre Lens Vallée. 110 emplois, 110 opportunités d'emploi. Alors, c'est peu, c'est pas assez, c'est beaucoup.
Alors, on a mis opportunité d'emploi parce que voilà, c'est, dans ces 110, il n'y a pas que des CDI. Voilà, ça peut être des contrats de professionnalisation, de l'apprentissage, des stages longs. Donc, au global, c'est beaucoup, clairement. Clairement, par rapport à d'autres incubateurs, on est plutôt fiers de ça. Évidemment, nous, tout notre enjeu, c'est de faire en sorte de créer de l'emploi sur le territoire. Voilà. Et pour vous illustrer aussi ça en prenant l'exemple d'une autre entreprise, on a une entreprise qu'on a accueillie qui s'appelle Protomotech, qui vient à la base d'Orléans. Et ils installent leur filière Hauts-de-France à Lens. Là, ils ont réservé donc un des bureaux dans le bâtiment avec pour l'instant une équipe de 2 personnes avec pour ambition de créer 4 autres emplois dans les 2 ans. Donc l'idée, c'est d'amener de l'emploi à Lens.
Alors justement, quel est le rayonnement de la Louvre-Lens Vallée aujourd'hui? Parce que moi, on sait que vous exportez parfois aux États-Unis, par exemple, dans des salons pour justement promouvoir ce qui se fait. Votre directrice Wafa Manou, c'est très impliquée là-dedans. Le rayonnement aujourd'hui de la Louvre-Lens Vallée, c'est quoi?
Alors notre rayonnement est principalement régional. Évidemment, l'ambition, c'est d'aller plus loin. Donc, on est présent, comme vous le soulignez, sur des salons internationaux, sur des gros salons nationaux, notamment à Paris. Après, sur le recrutement des projets, l'essentiel de nos projets viennent vraiment de la région Hauts-de-France. Voilà. Donc, l'ambition à moyen terme, c'est effectivement d'avoir un rayonnement national, mais pour l'instant, c'est un rayonnement régional.
Voilà, et vous essayez justement de participer à cette transformation du territoire quelque part, cette progression aussi de l'économie numérique, y compris dans le territoire.
Absolument, absolument. On est un outil du territoire, on est principalement financé par la communauté d'agglomération Lens-Liévin. Du coup, c'est vraiment cet enjeu, renforcer l'attractivité du territoire et montrer qu'à Lens, on peut faire de belles choses et on peut être tout aussi attractif que d'autres localités dans la région de France.
Alors, l'inauguration du bâtiment, du nouveau bâtiment de la Louvre-Lens Vallée, donc qui va ouvrir très prochainement, comme on l'a compris, donc le 28 août prochain. D'autres échéances à venir pour la Louvre-Lens Vallée?
Oui, bien sûr. Alors déjà, peut-être souligner que l'appel à projet, on a fait une semaine de prolongation, mais s'achève le 16 juin inclus. Donc vous pouvez tout à fait postuler sur notre site internet. Il y a un questionnaire à remplir qui se fait en 30 minutes. Donc ça, c'est vraiment l'échéance la plus courte. Et le 28 août, il y a l'inauguration, mais on fait également ce qu'on appelle un culturathon santé. Donc qu'est-ce qu'un culturathon santé? En fait, c'est un hackathon, on va dire une grosse séance de créativité où on va vouloir faire participer là les citoyens sur des thématiques liées au contrat local de santé, donc le bien bouger, le bien manger, le bien vieillir. Voilà, donc le but du jeu, c'est que les citoyens fassent émerger des défis qui pourront peut-être après être saisis par des porteurs de projets qui seront accompagnés par nos soins.
Une initiative que vous aviez déjà réalisée, je crois, l'an dernier.
Absolument.
Voilà. Et ça va se dérouler où, du coup?
Alors, ça va se dérouler dans nos nouveaux locaux. Donc, on en profite. Vous voyez, on va tout de suite les exploiter. Et voilà, c'est quelque chose qu'on fait avec d'autres partenaires, l'hôpital de Lens, l'Agence régionale de la santé. Voilà.
Alors, pour terminer, Vincent Gariazzo, si on souhaite en savoir plus sur la Louvre-Lens Vallée, si on souhaite justement répondre à cet appel à projet, comment fait-on?
Bah, c'est très simple, vous allez sur louvrelensvallée.com/candidater, et vous tomberez directement sur les informations nécessaires pour candidater.
Eh bien, merci beaucoup Vincent Gariazzo d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé du développement de la Louvre-Lens Vallée. Et puis donc, on rappelle que l'appel à projet qui était initialement prévu jusqu'au 9 juin est reporté. Donc la date limite pour justement participer à cet appel à projet est repoussée au 16 juin. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site louvrelensvallée.com pour y participer. Merci à vous.
Merci Jean-Philippe.
Cette nuit dure toute la nuit. En partant, tu m'as mis le cœur à l'envers. Sans toi, la vie est devenue un enfer. Entortillé dans mes draps, je crois me souvenir de toi. souvenir de toi. Lorsque tu disais tout bas que tu n'aimais que moi, tout ce qui se passe au dehors m'indiffère. Que le monde saute, ce n'est pas mon affaire. Façon de rester avec toi. C'est la raison pour laquelle je ne veux plus quitter mon lit. Pour qu'enfin toutes les nuits durent toute la vie.
Étienne Dao en duo avec Philippe Catherine pour Le Grand Sommeil sur Radio Plus. On arrive à la fin de cette émission Savoir Plus. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le Flash Info suivi à midi et quart des routes de l'Accordéon en compagnie de Christophe qui est déjà présent dans les studios. Alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le www.radioplus.fr et que si vous aussi vous avez une actualité à nous faire partager, quel que soit le domaine, vous pouvez bien entendu nous contacter par téléphone au 09 52 22 22 07 09 52 22 22 07 ou en envoyant un mail à redaction@radioplus.fr. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Plus sur le 104.3 en FM et en DAB+, ainsi que sur Internet et sur les applications mobiles.